Le livre La messe de toujours qui est en vente. Donc ce livre qui a été fait dans le but de faire connaître d'abord aux séminaristes et aux membres de la Fraternité Saint-Pédis tout ce que Mgr Lefebvre a pu dire sur la messe, mais qui a été fait aussi dans le but de permettre ensuite aux fidèles de bien suivre leur messe, et puis également de permettre de faire connaître la tradition à des gens qui n'ont pas donc nos idées. Dans la première partie du livre, il s'agit d'un commentaire qui va des prières au bas de l'autel jusqu'au dernier évangile, donc un commentaire de chacune des prières de la messe, avec des propos donc de Mgr Lefebvre. Et puis ensuite, dans la deuxième partie du livre, il s'agit d'une partie critique sur la nouvelle messe, et donc spécialement les jeunes qui n'ont pas connu donc le combat pour la messe, les circonstances dans lesquelles la nouvelle messe est apparue, et ce qui ne va pas dans cette messe. Donc c'est très important pour eux de bien connaître dans quel contexte Mgr Lefebvre a opté pour le maintien de la messe traditionnelle. Et dans la mesure où la vérité est présentée avant l'erreur, c'est un livre qui peut peut-être faire du bien à ceux qui s'approchent de la tradition, donc ils ne sont pas heurtés de front par des propos négatifs, mais il y a une présentation qui est faite de la messe, de la grandeur de la messe en elle-même. Et donc par conséquent, le lecteur qui lit la première partie se laisse toucher par la beauté, la grandeur de la messe, et par là même, il comprend mieux ensuite que le fait d'avoir mis de côté certaines vérités essentielles pour un catholique, le fait que la messe est un sacrifice propitiatoire, et ceci pour faire plaisir aux protestants, eh bien il comprend que cela n'est pas dans la ligne catholique. Et donc il comprend pourquoi Mgr Lefebvre a réagi et a refusé cette nouvelle messe. Alors, il me semble que c'est un livre qui reste tout à fait d'actualité, dans la mesure où le pape maintenant, et nous en sommes très heureux, permet donc à tout prêtre de dire la messe traditionnelle, même si ensuite, à la fin de la lettre qui accompagne, il dit que l'évêque est maître dans son diocèse et que donc il peut en gros faire un peu ce qu'il veut, donc ça pourrait limiter malheureusement l'action de ce motu proprio. Et il est vrai aussi que le pape dit qu'il y aurait une incohérence à reconnaître la valeur et la sainteté du nouveau rite et de ne jamais la célébrer. Alors bien sûr, pour nous, on n'est pas du tout incohérent puisque nous refusons la valeur et la sainteté du nouveau rite. Mais certains, donc Mgr Ricard, quand il a vu ça, il a dit: dans mon diocèse, je ne permettrai la célébration de la messe de Saint-Pie V qu'à ceux qui reconnaissent la valeur et la sainteté du nouveau rite. Donc ça pourra limiter malheureusement l'action du motu proprio. Mais en tout cas, le fait que le pape dise que cette messe n'a jamais été abrogée, ce que nous avons déjà dit, et le fait qu'il permette en conséquence à tout prêtre de la célébrer est vraiment un bienfait, bien sûr, pour l'Église. Et donc, comme le débat est lancé maintenant dans le monde entier, eh bien, ça peut être l'occasion, ce livre, La messe de toujours, donc de passer ce livre pour montrer que la première étape a été franchie, donc la reconnaissance de la messe traditionnelle. Et maintenant, il n'y a plus que la deuxième étape à franchir, mais qui ne sera pas forcément franchie demain, c'est de reconnaître les déficiences de la nouvelle messe, afin qu'il n'y ait plus que la messe traditionnelle qui soit célébrée. Alors, dans ce livre, il y a donc, Mgr Lefebvre avait cet esprit de synthèse et en même temps cette capacité à dire des choses très profondes d'une façon très simple. Vous l'avez entendu vous-même à travers quelques conférences qu'on écoute en lecture de table. Et donc, Mgr Lefebvre je dirais qu'il avait une vue de synthèse, et donc il voyait à travers la messe la source de tous les bienfaits, en fait, que nous recevons de Dieu, de toutes les grâces. Vous voyez, il avait, s'il fallait résumer, toute sa pensée, elle est simple. Dieu est simple, et c'est vrai que plus on se rapproche de Dieu, plus on se simplifie. Donc, l'événement central de toute l'histoire de l'humanité, c'est le fait que le bon Dieu soit fait homme, vous voyez, a pris une nature humaine comme la nôtre, et a accepté de souffrir et de mourir pour nous sur une croix par amour. Voilà, c'est le grand mystère, de la religion catholique. Le grand mystère de la religion catholique, c'est le fait que Dieu, donc, a voulu racheter nos péchés en prenant une nature humaine comme la nôtre. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mort pour nous sur la croix. Ça, c'est l'événement de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien de plus grand qui ne soit jamais produit et qui ne se produira jamais donc sur la Terre. Or, il se trouve que c'est ce même événement qui est reproduit à chaque messe. Donc ce n'est pas une nouvelle mort de notre Seigneur, bien sûr, notre Seigneur, maintenant il est au ciel, il est donc ressuscité, mais c'est ce même événement qui est remis sous nos yeux à chaque messe, dans le but de nous en appliquer les mérites. Alors dans la mesure où c'est cela la messe est vraiment le cœur de l'Église, vous voyez. Alors on comprend tout à fait que le fait de s'attaquer à cette messe ou de camoufler certaines vérités essentielles de la messe pour un catholique, pour faire plaisir à des hérétiques, des gens qui ne sont pas catholiques, on se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Vous voyez. Donc ça c'est très clair. Ouais. Regardez Saint François de Sales, le doux François de Sales, il a converti 70 000 protestants. Mais s'il les a convertis, ce n'était pas en leur disant « Eh bien, je vais essayer de camoufler des vérités catholiques et puis on va essayer de travailler ensemble à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. » Ce n'est pas du tout comme ça que Saint François de Sales a agi, vous voyez. Donc, et alors Mgr Lefebvre, qui voyait à travers la messe donc, tout l'amour de notre Seigneur, qui est de nouveau présent à la messe, il voyait aussi à travers la messe la source de toutes les grâces, et donc notamment la source des grâces qui sont données aux époux donc à l'occasion de leur mariage. Donc il y a un passage que je voudrais vous lire sur le rapport qu'il y a entre les épousailles chrétiennes et le Saint-Sacrifice de la messe. On oublie trop souvent que le sacrement de mariage a sa signification et son symbole dans le sacrement de la croix. Dieu a voulu créer la femme dans le sommeil d'Adam en tirant de son côté ce qui était nécessaire pour la création de la femme. Lorsque notre Seigneur a incliné la tête et qu'il a expiré, son cœur a été transpercé et c'est de son cœur qu'est née son épouse mystique, l'Église. Quelle belle comparaison! La naissance de la femme est le symbole de la naissance de l'Église du côté de notre Seigneur transpercé par la lance. Et c'est cela la signification du mariage. La grâce du mariage est une grâce qui sort du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est symbolisée par son sacrifice. Aussi, le mariage est associé d'une façon toute particulière au sacrifice du calvaire. C'est pourquoi l'Église a toujours voulu que le sacrement de mariage soit donné à l'occasion du sacrifice de la messe. Tout cela a une signification remarquable, extraordinaire, et doit encourager ceux qui sont dans les liens du mariage, dans leurs difficultés, dans leurs épreuves. La fécondité du mariage entre notre Seigneur et son Église est signifiée par sa passion, par son sang, qui a coulé pour faire naître toute la famille chrétienne. Or, c'est bien cette signification-là qui est appliquée au sacrement de mariage. Par conséquent, on peut dire en toute vérité que les époux qui assistent fréquemment au renouvellement du sacrifice de la croix, donc au renouvellement des noces de notre Seigneur avec son Église, ressuscitent la grâce de leur mariage et augmentent cette grâce particulière dont ils ont besoin pour accomplir dignement, en vrai chrétien, ce qui leur est demandé dans le mariage. Ils doivent assister à la Sainte Messe. La Sainte Messe est vraiment la pierre fondamentale de la famille chrétienne, l'Église l'a voulu ainsi. De même que cette union entre notre Seigneur Jésus-Christ et son épouse mystique a produit d'innombrables enfants et a été d'une fécondité extraordinaire, de même, les époux doivent s'aimer, donner leur vie s'il le faut l'un pour l'autre, pour répandre aussi la vie naturelle et la vie surnaturelle. C'est le signe de la grâce du mariage. Par conséquent, lorsque les époux assistent à la messe, leur grâce sacramentelle du mariage est renouvelée et revivifiée par l'exemple du calvaire, par l'Eucharistie qu'ils reçoivent, par cette victime qui est en eux. Ils doivent s'aimer et se donner l'un à l'autre jusqu'au sang s'il le faut, afin de peupler le ciel d'élus. Voilà ce qu'est le mariage. Nous ne devons pas l'oublier. Ainsi, tout se retrouve dans la Sainte Eucharistie, tout se retrouve dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mariage est à la naissance de la famille chrétienne et à la naissance des vocations qui viendront dans le futur, des enfants qui se consacreront à Dieu. C'est vraiment la naissance de l'Église. La sanctification de la famille par la croix, par le sacrifice de la messe, est très importante. De là naissent les vertus familiales. La société n'étant pas autre chose que la réunion des familles, si les familles se sanctifient, la société est sainte. D'où la source de la civilisation chrétienne qu'est le Saint-Sacrifice de la messe. Les sociétés catholiques qui ont vécu autrefois étaient bâties autour de l'autel. Vous voyez un regard très profond sur ce qu'est la messe et on voit tous les effets ensuite produits par la Sainte Messe. Alors maintenant, je voudrais, pour la dernière conférence que je vous ferai personnellement, vous parler de la place de la femme catholique dans le monde. Alors ce terme de monde est un terme qui peut avoir deux sens. Dans l'Évangile, il est fait mention du monde dans deux sens différents. Donc, notre Seigneur, dans l'Évangile, dit, à un moment donné, donc c'est un peu avant sa passion, le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, ça veut dire le roi du monde, va être jeté dehors. Donc, qui est le roi du monde pour notre Seigneur qui va être jeté dehors? Ben, c'est le démon. Donc, si notre Seigneur appelle le démon le prince de ce monde, ça veut dire que le monde est en quelque sorte dirigé par Satan. Donc Satan a une certaine influence sur le monde. Saint Jean chapitre 12 verset 31. Et en conséquence de cela, puisque Satan a une certaine influence sur le monde, eh bien, dans ce sens, notre Seigneur dit dans sa prière sacerdotale, donc prière qu'il adresse à son Père le soir du Jeudi Saint, « Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que vous m'avez donnés, car ils sont vôtres. » Saint Jean chapitre 17, verset 9. Donc le monde peut être perçu comme étant sous la coupe du malin, sous la coupe du démon. Et dans ce sens, notre Seigneur dit « Ce n'est pas pour le monde que je prie. » Donc notre Seigneur voit à travers le monde, sous un certain rapport, donc, ce monde dirigé par Satan. Et dans ce sens, notre Seigneur ne prie pas pour ce monde. Maintenant, si vous lisez l'Évangile, vous avez aussi d'autres passages du même évangéliste, de Saint Jean, où il est dit, par exemple, alors j'ai pas la référence comme ça, mais c'est le chapitre 3 de Saint Jean, vous trouvez ça facilement, c'est dans le discours à Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde. Alors d'un côté, il dit Dieu a tant aimé le monde, et puis d'un autre côté, il dit ce n'est pas pour le monde que je prie. Donc là, c'est le monde, quand il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver le monde, eh bien, en ce moment-là, il voit le monde en tant qu'il est créé par Dieu, et le monde en tant qu'il peut être sanctifié. Donc, sous un certain rapport, le monde est sous la coupe du démon. Sous un autre rapport, le monde, eh bien, peut être vu comme étant source de sanctification, source de sainteté. Et peut être, donc, objet de la miséricorde de Dieu. Voyez. Et donc, il me semble que le catholique, qui veut être bien à sa place dans le monde, doit avoir toujours cela en tête. Voyez. D'un côté, se dire... le monde est en partie, au moins, dirigé par Satan, et sous ce rapport-là, je dois éviter de pactiser avec ce monde. Il y a en moi des faiblesses, depuis le péché originel, donc le vieil homme est en moi, et donc il y a un ennemi en moi, c'est le vieil homme. Et le démon également, un autre de mes ennemis. Et ce démon, eh bien, va chercher autant qu'il pourra, à accroître mes blessures. Et comme le monde est en partie sous sa coupe, eh bien, il va utiliser aussi le monde pour exploiter les séquelles du péché originel qui reste en moi, vous voyez. Et donc, le catholique est quelqu'un qui doit essayer toujours de faire en sorte de, comme notre Seigneur l'a dit en parlant de ses apôtres, d'être dans le monde sans être du monde, dans la mesure où ils doivent être vigilants pour ne pas accroître eh bien, les blessures qui demeurent en nous, même après le baptême. Donc le monde est mauvais dans la mesure où il exploite les séquelles du péché originel, pour faire, pour nous faire plonger dans le vice. Voyez. Et donc, sous ce rapport-là, le monde est mauvais. Et c'est en ce sens que Saint Jean, qui qui s'adressait à ce moment-là aux jeunes spécialement, il leur disait ceci. N'aimez pas le monde, ni ceux qui est dans le monde. C'est dans sa première épître, au chapitre 2. N'aimez pas le monde, ni ceux qui est dans le monde. Il ajoutait, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, il va expliquer ici ce qu'il entend par monde, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Il ajoute, car tout ce qui est dans le monde est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. Donc, il résume un petit peu ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Et en quel sens le monde est mauvais? Le monde, on dit qu'il est mauvais dans le sens où dans ce monde, eh bien, il y a une certaine tendance à favoriser la concupiscence des yeux, par tout ce qui flatte la vanité, la concupiscence de la chair, donc par l'appétit et l'exploitation de nos appétits déréglés, et puis ensuite l'orgueil de la vie. Donc, c'est le fait d'exalter la vie présente et d'oublier la vie future. Oui. Et donc, le Saint Jean, qui était l'apôtre de la charité, qui ne savait dire qu'une seule chose à la fin de la vie, c'était « aimez-vous les uns les autres », eh bien, Saint Jean mettait spécialement les jeunes gens en garde contre le monde. Le monde entend qu'il a tendance à vivre de façon donc superficielle et à exploiter la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie, voyez. Oui. Alors, il me semble maintenant que s'il fallait essayer de mieux définir alors le monde, se dire de quelle manière aujourd'hui il se manifeste, on peut dire que trois mots résument le monde. Le premier mot qui résume le monde, c'est la frivolité. Le monde est frivole. Qu'est-ce que c'est que la frivolité? La frivolité, c'est l'habitude de traiter légèrement les choses graves et sérieusement les choses légères. Et on peut dire que le monde est imprégné de cette frivolité. Très souvent, donc, le monde, sous ce rapport-là, donc, il traite légèrement les choses graves, c'est-à-dire qu'il ironise facilement sur tout ce qui a trait à la religion et à la morale catholique. Donc, beaucoup de femmes ont fait des confidences sur leur... je ne parle pas de cette retraite, sur l'atmosphère qui règne donc dans leur milieu de travail, et bien très souvent, elles subissent un véritable ostracisme vis-à-vis de ce qui est religieux ou tout simplement sérieux. Donc si vous êtes vraiment indécise, que vous avez une décision importante donc à prendre, si vous êtes faible et que donc vous sentez que vous auriez des résolutions à prendre, et si vous êtes dans la désolation et que donc vous chercheriez donc de vraies consolations, eh bien c'est rarement dans le monde que vous les trouverez sous ce rapport. Et ensuite, non seulement le monde traite légèrement les choses graves, mais il traite sérieusement les choses légères. Sérieusement les choses légères, j'entends par là que les discussions qu'il y a souvent dans le monde, c'est souvent le potin du quartier, c'est la mode, ce sont les vacances, le dernier film, les dernières nouvelles du jour, et les médisances aussi souvent. Et donc, on a tendance à traiter sérieusement les choses légères. Et si vous ne rentrez pas dans ce jeu-là, eh bien tout de suite on vous traitera de personne fermée, coincée, rétrograde, asociale, sectaire, et j'en passe. Le monde est frivole, non seulement dans ses conversations, mais par le but qu'il assigne à la vie et par la loi qu'il prétend lui imposer, la loi du plaisir. Donc le monde veut jouir, et s'il le pouvait, immortaliser le plaisir. Un sous-officier me disait, c'est peut-être pas forcément ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, mais en tout cas c'est quand même intéressant à savoir. Un sous-officier me disait qu'il s'était amusé à compter le nombre de réflexions dans une journée à la télévision qui incitaient les gens au plaisir ou à la consommation. Eh bien, il disait que c'était vraiment très impressionnant. J'ai plus le nombre de... Mais bon, voilà. C'est pas là que vous allez apprendre à savoir comment vous mortifiez, donc l'esprit de sacrifice. Or, en tant que catholiques, nous, le plaisir ne nous suffit pas, il nous faut du bonheur. Et nous savons que pour atteindre le bonheur, il faut emprunter la route du devoir et du sacrifice. S'il fallait décrire, donc d'une façon aussi très schématique, mais sur la réalité plus complexe, mais là j'essaie de, pour clarifier les choses, de donner des flashs et des repères. Trouver deux paroles qui puissent vous montrer donc la différence de conception qu'il y a de Dieu et celle qui est donnée par le monde. Je vous donnerai ces deux paroles qui se trouvent donc dans les deux, tous les deux dans la Sainte Écriture. L'une qui parole qui condamne ce monde et une autre qui veut nous attirer vers notre Seigneur. Donc la première, enivrons-nous, couronnons-nous de roses avant qu'elles ne soient flétries, car demain nous mourrons. Donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et la seconde, que celui qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Voyez. Alors d'où vient cette différence d'appréciation de l'un et de l'autre? Voyez. Eh bien, c'est tout simplement que l'un va tout miser sur cette vie présente, et l'autre, sans négliger la vie présente, puisque nous sommes sur la terre, va avoir comme orientation fondamentale de rechercher essentiellement le vrai bonheur, avant tout, en Dieu. Donc le monde, ni le péché originel, et ni notre élévation à l'ordre surnaturel. Or, je vous l'ai dit dès la première conférence, le catholique, justement, ce qui le spécifie, c'est cela. Dans la vision qu'il a et de Dieu et de l'homme, donc dans la vision qu'il a de l'homme, il estime que l'homme est à la fois blessé et en même temps aussi surélevé à un état extraordinaire s'il a eu la grâce du baptême et s'il persévère dans cette grâce. Or, dans la mesure où on estime qu'un homme est bon par nature et où cette vie se réduit à la vie présente, ou si par contre on estime que l'homme est blessé et enrichi d'un trésor extraordinaire, bien sûr que notre conception de la vie est totalement différente. On n'a pas les mêmes repères. Voyez. Et donc, comme l'agir suit l'être, en fonction de ce que l'on croit que nous sommes et en fonction de ce qu'on croit être le but de la vie, bien sûr que notre façon d'agir sera différente. Alors les gens ne vont pas forcément vous dire même qu'ils pensent que tout s'arrête à la mort. Mais pour eux, si vous voulez, dans leur mode de vie, malgré tout, ils font comme si. Voyez. Ou alors même s'ils croient encore en Dieu, c'est souvent un Dieu un peu vague. Voyez. Donc qui n'est pas vraiment le moteur, en tout cas, de toute leur existence. Voyez. Donc le monde est frivole. Ensuite, pourquoi est-ce que le monde, il faut éviter, il faut avoir cette prudence, disons en tout cas, dans nos relations avec le monde. C'est pas qu'il faille fuir le monde et rentrer tous au couvent. C'est pas forcément ce que le bon Dieu attend de tous. Mais il faut repérer de quelle manière le monde est un danger. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Donc, de quelle manière le monde est un danger? Il est un danger dans le sens où il est frivole. Où il a l'habitude de traiter légèrement les choses graves et sérieusement les choses légères. Ensuite, le monde est encore dangereux pour moi dans la mesure où il est un séducteur. C'est-à-dire qu'il a tendance à nous envoûter. C'est-à-dire, sans s'en apercevoir, on est pris par un tourbillon, on est pris par une ambiance qui nous fait nous échapper du monde vraiment réel. Parce que le monde divin est un monde réel. Déjà, Tacite disait, corrompre, être corrompu, voilà le monde. Alors, de quelle manière le monde peut-il nous corrompre? Pas forcément toujours en nous excitant à des choses abominables, non. Il peut nous corrompre par la fascination des bagatelles. C'est-à-dire qu'il va, sans qu'on s'en rende compte, nous détourner de l'essentiel et nous faire donc vivre dans des choses qui ne sont pas l'essentiel. Donc le monde va nous faire vivre dans le superficiel, l'accidentel, l'éphémère. Or, la Sainte Écriture nous dit « La fascination des bagatelles pervertit les meilleures natures ». En effet, cette fascination des bagatelles, donc le fait d'être fasciné par ce qui est extérieur, par ce qui est superficiel, va nous voiler, nous empêcher de voir le ciel, l'éternité, le bon Dieu, notre Seigneur, le but de la vie. Et c'est ce qui fait que, pour rentrer dans une retraite, parfois, je vous disais au début, il faut parfois 24 heures, 48 heures. Et ce que je vous dis maintenant, en imaginant que ce soit pas une conférence, mais un sermon, et que ce soit dit un dimanche, alors que vous êtes là, donc, dans l'ambiance, ça ne produirait pas le même effet que ça produit maintenant sur vous. Parce que maintenant, après ces quelques jours passés près du bon Dieu, Bon, peut-être que vous pourriez estimer que bon, je suis peut-être un peu exagéré, c'est possible, j'en sais rien. Mais au moins, vous dites, c'est peut-être pas complètement faux ce qu'il raconte, quoi. J'espère, j'espère. Et cela parce que, en raison de ces quelques jours où vous avez cherché à vivre plus près de Dieu, vous sentez que, il y a un trésor qui doit être quand même caché de ce côté-là. Et le monde, qu'on pense être vraiment pas si mauvais que cela, après, avec le recul, on s'aperçoit qu'il peut quand même être un danger pour nous. Donc, dès que vous allumez la radio ou que vous mettez la radio, que vous allumez la télévision, vous retrouvez tout de suite, ou même Internet, vous retrouvez tout de suite comme subjugué, comme envoûté en quelque sorte par cette voix, par ces images. C'est comme ça, c'est notre nature, quoi. Regardez même déjà les petits enfants, hein, donc on les met devant un écran, ils sont captés complètement par cela. Et donc la tendance naturelle que l'on a, quand on vit en permanence dans ce monde-là, on n'a pas le recul que vous avez maintenant, par se laisser imprégner par tous ces discours qu'on peut entendre. Alors parfois, il y a des choses exagérées, ou alors des choses qui sont mauvaises, qu'on va tout de suite rejeter. Vous voyez. Mais sinon, pour le reste, sans qu'on s'en rende compte, ça finit par nous toucher, vous voyez, par nous, un petit peu peut-être parfois par nous salir. Et donc, le signe du dérapage qu'il provoque en nous, c'est lorsque ces distractions vous amènent à aimer davantage la vie présente et vous rendre plus difficile la vie d'oraison, la vie de prière, la vie d'union à Dieu. Ouais. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dès son époque, elle disait que elle essayait de voir où elle en était, par exemple, de l'esprit de sacrifice. Et si le moindre sacrifice lui coûtait beaucoup, elle disait « Oh là, là je sens que j'ai peut-être encore des efforts à faire, je suis en train de déraper. Mais... » Donc elle essayait de voir par là si elle était dans la ligne vraiment catholique ou si elle avait tendance à se laisser un petit peu aller. Alors de quelle manière le monde va-t-il s'attaquer spécialement à la femme ? Il va s'attaquer à elle, notamment en flattant son ambition et sa vanité. Donc, flatter son ambition, donc pour lui plaire, donc il va vous demander d'acquérir ce qu'il aime, donc tel vêtement, telle coiffure, tel parfum, telle forme de loisir, que sais-je. Et il va aussi flatter votre vanité, donc par exemple dans la publicité, on va exploiter la vanité des gens, on va flatter leur orgueil pour vendre tel produit, vous voyez, et les gens se font avoir. Et non seulement notre société est une société de consommation, donc qui va créer en nous des besoins, mais ensuite aussi, malheureusement aujourd'hui, une société de perversion. Donc le monde va inciter l'homme non seulement à consommer, mais à vendre son âme par une conduite coupable. Et pour éviter ce piège, voici un texte de la revue Itinéraire qui était paru en 1958. Vouloir être séduisante et désirable, c'est pour une femme se dégrader. C'est vouloir exciter en pure perte, pour un motif de vanité personnelle et de vanité animale, le plus sauvage et le plus bestial des instincts, celui qui, étant donné la liberté et les fins morales de l'humanité, a le plus besoin d'être contenu et dirigé. Il n'y a pas de société chrétienne possible sans la vertu de modestie chez les femmes, qui consiste précisément à montrer à l'extérieur, par ses manières, la retenue à laquelle l'oblige la grandeur de son rôle éducatif dans l'humanité, la dignité de son rôle dans la famille. Donc la femme a un rôle d'éducation des hommes, même de l'humanité, et un rôle également au sein de la famille. Rôle dans la famille, bien sûr, mais rôle aussi dans l'humanité. Voyez. C'est-à-dire que plus la femme se dégrade, et plus la société se dégrade. Voyez. Ça, c'est sûr. Et plus la femme est à la hauteur de sa mission, plus le monde lui-même s'élève aussi donc à un niveau supérieur. Ça, c'est clair. Donc, le monde va flatter votre ambition et votre vanité, et si vous n'y prenez garde, il vous plongera jusque dans la volupté. Et à ce sujet, alors c'est plutôt plus jeune ici que je parle, parce que les autres ont peut-être plus par l'expérience de la vie, par la connaissance après aussi davantage de la nature humaine, elles se rendent peut-être mieux compte. Mais pensez toujours que ce n'est pas parce que telle tenue vestimentaire ne provoque donc aucune mauvaise sensation en vous que vous êtes nécessairement pour autant blanche aux yeux de Dieu. Vous voyez. Donc, lorsqu'on joue avec le feu, vous voyez, il n'est pas suffisant pour être indemne de toute faute, de ne pas mettre le feu dans sa propre maison, mais il me semble quand même de la prudence la plus élémentaire et de la charité la plus basique de ne pas la mettre dans la maison du voisin. Vous voyez. Donc réfléchissez un petit peu à cela. Vous voyez. Donc il ne s'agit pas uniquement de ne pas mettre le feu chez vous, bon, c'est sûr que c'est déjà ça, hein. Mais il faut éviter quand même d'allumer le feu donc chez le voisin. Vous voyez. Et donc comme les hommes ne sont pas des femmes, eh bien il faut toujours faire très attention à la façon dont vous vous comportez. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des hommes qui sont vicieux par nature, et qui ont un mauvais esprit et une façon de penser et d'être qui ne convient pas. Et si eux ont des mauvaises pensées à votre égard, vous êtes absolument indemne si vous-même vous avez un comportement digne de fille de Dieu. Mais si vous-même vous excitez en lui, eh bien, ses pensées, et qu'il a ses pensées, vous êtes responsable des pensées qu'il a pu avoir. Oui. Quand bien même, vous n'auriez eu aucune mauvaise intention. Oui. Le papy XII, voyez, n'hésitez pas à dire, si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Donc le pape ne dit pas, qu'il faut qu'elles fassent attention, mais qu'elles seraient en soi indemnes. Voyez. D'un côté, il dit qu'elles ne se rendent pas compte. Et d'un autre côté, c'est le pape qui parle, hein, il dit qu'elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Donc il montre qu'elles sont quand même responsables, même si elles ne s'en rendent pas compte. Donc après, bien sûr, c'est aux mamans aussi de faire attention à bien éduquer leurs filles, de leur donner ce sens, bien sûr, de la pudeur, de la réserve, de la mesure, bien sûr, qu'il faut garder. Donc encore une fois, je vous dis, si vous êtes en... Je ne parle pas uniquement de la tenue vestimentaire, je parle de votre comportement. Si votre comportement en lui-même est droit, en ce moment-là, si ensuite une personne tombe par vous, en quelque sorte, vous n'y êtes pour rien. Voyez. Mais si vous-même, vous êtes occasion de chute par une attitude équivoque, eh bien, en ce moment-là, vous êtes responsable, quand bien même cela n'aurait rien produit de mal en vous. Voyez. Donc, pensez que le monde, donc, je disais, donc, est séducteur. Donc, il sait vous toucher en flattant votre vanité et votre ambition pour vous conduire jusqu'à l'impureté. Et donc, spécialement dans ce domaine, n'oubliez pas également de protéger l'homme par une conduite digne de votre nature de fille de Dieu. Et c'est vrai aussi, après, par exemple, dans la période des fiançailles, qui est une période très délicate, je dis toujours que c'est aux jeunes filles de fixer les limites. Le jeune homme ne dépassera pas les limites qui sont fixées d'une façon ferme. Oui. Mais si la jeune fille, eh bien, n'est pas claire dans sa tête, et pas clair dans son comportement, eh bien, le jeune homme la conduira plus bas qu'elle ne le pensait au départ. Elle ne le voulait pas, elle ne le pensait pas, mais elle a allumé un feu, et après, elle en est victime, elle-même. Et c'est ce qui arrive souvent. Et puis enfin, le monde est un sophiste. Le grand crime du monde, c'est de réhabiliter le mal. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le monde va excuser donc tous les vices, à l'exception de quelques défauts qui pour lui sont impardonnables. Quels sont les défauts qui sont absolument impardonnables? On avait posé comme question un jour à un ensemble de personnes en France. À quel moment vous vous doutez de Dieu? Alors certains avaient dit, moi je doute de Dieu lorsqu'une grosse épreuve me tombe dessus. Quoi. Voilà. Alors après ils avaient fait un pourcentage de personnes donc qui doutaient de Dieu dans telle ou telle circonstance. Et puis il y en avait, je pense entre 15 et 20% qui avaient répondu que c'était, moi je doute de Dieu lorsque je vois des intégristes. Ah. Enfin, après, faudrait peut-être définir l'intégrisme. Hein. Mais en tout cas, aux yeux du monde, il n'existe plus de péché en dehors de ce qu'il appelle l'intolérance, l'intégrisme, le sectarisme, le fanatisme. Je dis bien de ce qu'il appelle, parce qu'il y a de fait un fanatisme qui existe, il y a un intégrisme qui existe. Mais... Par contre, le monde va absoudre le divorce, l'avortement, l'homosexualité au nom de la tolérance. Ainsi, le monde couvre le vice du manteau de la vertu. Et par contre, il va tourner la vertu en ridicule. Ainsi, pour lui, la modestie est une marque d'étroitesse d'esprit, une attitude arriérée, vieux jeu, démodé. Et donc, pour appâter les âmes, eh bien, le monde va avoir ses slogans. Il faut bien que jeunesse se passe, il faut profiter de la vie, il faut évoluer, il faut vivre avec son temps. Zen, cool, tranquille. Donc le monde va dépeindre la vie sérieuse comme terne, fade, insipide. Et il va inviter les jeunes à profiter de la vie avant de passer aux choses sérieuses. Et cette tentation donc touche parfois nos jeunes, spécialement donc lorsqu'ils sortent de leurs études secondaires. Quoi. Se dire, bon, les choses sérieuses, bien sûr, après, mais pour l'instant, bon, faut quand même en profiter un peu, quoi. Alors, pour aider les jeunes à rester fidèles, je leur dirais qu'on ne peut pas se laisser glisser sur la pente savonneuse des plaisirs sans y laisser des plumes. Oui. Et comme j'avais aussi laissé entendre tout à l'heure, en général, dans ce domaine-là, on descend toujours plus bas qu'on ne le pensait au départ. Oui. Au départ, on ne voudrait quand même pas. On se dit, bon, on se permet. Ceux qui ont tendance, si vous voulez, à concevoir, disons, la vie catholique comme étant à la frontière entre ce qui est permis et ce qui est défendu, si vous voulez. Donc, ils sont là toujours, au lieu de trouver leur bonheur dans la verte prairie catholique, eh bien, ils sont toujours entre ce qui est permis et défendu, en disant ça c'est permis, ça c'est défendu. Alors, s'ils passent toute leur jeunesse à cela, eh bien, paf, ils risqueront très facilement de basculer. Voyez. Donc, normalement, il faudrait essayer d'avoir un idéal bien plus élevé, et donc de ne pas limiter donc la religion à la morale, ni la morale uniquement à ce qui est permis et défendu, quoi. Si vraiment on aime le bon Dieu de tout son cœur, eh bien, nécessairement, on sent tout de suite qu'est-ce qui est dans la ligne catholique, qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui lui fera plaisir et qu'est-ce qui lui fera de la peine. Donc le monde a des indulgences coupables, mais il a aussi ses sévérités, ses duretés, ses cruautés. Alors c'est vrai que le monde va quand même, aujourd'hui, heureusement, condamner certaines formes de crimes abominables, comme la pédophilie, l'inceste, les tueurs en série, bon, tout ça, et d'autres désordres de même espèce. Mais ce que lui ne voit pas, ce que le monde ne voit pas, ou feint de ne pas voir, c'est que tous ces débordements sont les conséquences de la pornographie, des modes indécentes, et de bien des débordements qu'il permet et qu'il encourage, voyez. Donc, d'un côté, je parlais tout à l'heure de l'incendie. Donc, le monde va allumer des incendies. Et puis ensuite, les incendies vont conduire après à des excès encore de plus en plus abominables. Donc, il va condamner ce qu'il y a de plus abominable, mais sans remonter à la source. Oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Et là, on voit à nouveau l'opposition radicale entre le monde et notre Seigneur. Vous voyez. Souvenez-vous de l'épisode de la femme pécheresse qui est prise en flagrant délit d'adultère. Oui. D'un côté, on voit les pharisiens qui sont frémissants de colère et d'une hypocrite indignation. Pour eux, eh bien, cette femme doit être lapidée. Et de l'autre, notre Seigneur, qui est la pureté même, eh bien, il va abaisser sur elle son regard miséricordieux. Il va la protéger et d'une seule parole, il va la ravir à ses accusateurs. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et ensuite, revenant à elle, il va dire, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et donc là, vous voyez à nouveau l'opposition radicale entre notre Seigneur et le monde. Notre Seigneur, par la main consacrée des prêtres, va relever les âmes souillées, tandis que le monde va les rejeter après les avoir séduites et profanées. Et voilà pourquoi notre Seigneur a condamné ce monde. Ce monde séducteur, profanateur et destructeur. Et alors on comprend peut-être mieux à cette lumière-là ces paroles de saint Augustin. Saint Augustin qui disait « Le monde, c'est ce qu'on aime moins à mesure qu'on aime Dieu davantage, et c'est ce qu'on aime davantage à mesure qu'on aime moins Dieu. » Donc plus on aimera le bon Dieu, et plus naturellement, je dirais, ce sera pas on n'aura pas besoin de se forcer, plus naturellement, eh bien on s'écartera du monde. Et on ne restera dans le monde qu'autant eh bien, que cela est nécessaire pour notre devoir ou pour le bien faire. Oui. Alors maintenant, comment faire pour arriver à être dans le monde sans justement se laisser abîmer par ce monde? Je pense que le secret, c'est d'avoir toujours ce désir de rendre le monde meilleur. Oui. Dites-vous bien que si vous restez dans le monde, si vous avez une vocation dans le monde, c'est dans le but de le rendre meilleur. Et le secret de ne pas vous laisser abîmer par ce monde, c'est d'avoir ce désir de le rendre meilleur. Si vous ne restez dans le monde qu'autant que cela est nécessaire pour le rendre meilleur, le monde ne vous fera pas de mal. Mais si vous désirez pactiser avec ce monde selon une certaine mesure, eh bien là, vous serez toujours mangé. Ceux qui commencent à aller se faire avoir par la compromission, de compromission en compromission, ils descendent toujours plus bas. Donc je vous ai dit que le terme de monde a deux acceptions, une négative et une positive. Donc le monde peut être vu comme la proie du démon, mais également comme créature de Dieu, en tant qu'il est susceptible de recevoir la parole de Dieu. Donc Saint Jean, c'était chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et notre Seigneur ajoute, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour le sauver. Chapitre 3, verset 17. Et donc, sous ce rapport, le monde mérite qu'on s'intéresse à lui et qu'on se penche sur lui avec miséricorde, afin de le purifier, afin de le sanctifier, afin de lui faire bénéficier des grâces de salut. Et c'est donc la raison pour laquelle vous êtes dans le monde. Si le bon Dieu vous permet de rester dans le monde, c'est afin que vous le rendiez meilleur. Et pour cela, il est aussi très important de ne pas vous contenter de pester sur ce qui ne va pas dans le monde. Voyez. Alors c'est sûr que quand on voit les affiches, quand on entend les informations, ou autre, il y a des tas de choses qui ne vont pas dans le monde, ça c'est sûr. Mais il me semble que ce n'est pas en vivant toujours dans le négatif que vous arriverez à être rayonnante et à faire du bien. Voyez. Donc il faut essayer de, bon, bien sûr, de reconnaître ce qui ne va pas, mais ensuite après, essayer de vivre peut-être un peu plus près de Dieu, qui lui est positif, pour justement essayer de faire plus de bien. L'idéal de Saint Pédis, c'était celui de Saint Paul, omnia instaurare in Christo, tout restauré dans le Christ. Eh bien, ça doit être aussi votre idéal. Et par rapport aussi à vos enfants, c'est donc capital, à la fois de les mettre en garde contre les dangers du monde, mais en même temps aussi les aider à avoir toujours ce regard miséricordieux vis-à-vis de ceux qui sont dans l'erreur, et avoir aussi les arguments adaptés pour les aider à découvrir la vérité et à répondre aux sophismes qu'ils peuvent entendre. Voyez. Parce que si vous voulez que vos enfants donc deviennent ensuite des hommes et des femmes équilibrés, c'est sûr, si vous êtes toujours en train de broyer du noir et ne voir que ce qui ne va pas, eh bien, ça ne va pas les encourager eux-mêmes, voyez, à trouver ensuite leur voie dans le monde. Mais si vous êtes vraiment, comme je le disais hier, catholique sans complexe, eh bien, en ce moment-là, certainement que vos enfants le seront aussi, et donc vous arriverez par là, je l'espère, à les aider à soit se donner au bon Dieu si c'est leur voie, ou soit, en étant dans le monde, à y faire du bien. Donc, en conclusion, donc, faut-il fuir le monde ? Il y a des âmes prédestinées qui le fuient dès qu'elles l'ont entrevu. Prise de la nostalgie de l'éternité, cédant à des appréhensions et des attraits mystérieux, elles choisissent la voie du cloître. Eh bien, c'est tout à leur honneur. Ce sont les âmes les plus belles et les plus heureuses. Mais tout le monde n'a pas cette vocation de carmélite, de dominicaine, de clarisse, de sœur de la fraternité. Aussi, lorsque notre Seigneur prie pour ses disciples, il ne demande pas à Dieu, son Père, de les enlever du monde, mais de les préserver du mal, en les envoyant dans le monde. Et il ajoute, « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Donc, il ne s'agit pas forcément de quitter le monde, mais de le dominer, non pas de façon dédaigneuse, mais de le dominer dans le sens d'être au-dessus pour ne pas céder à ses appâts. La femme mondaine, voyez, n'est pas celle qui va dans le monde par devoir, par convenance ou pour y trouver une distraction légitime, mais c'est celle qui se passionne pour lui, qui se laisse entraîner par lui jusqu'à lui sacrifier ses devoirs. Et c'est cela qu'il faut éviter. Alors comment ne pas être vaincu par le monde? Eh bien, la première chose, la première condition, c'est de lui déterminer à l'avance la part que vous pensez pouvoir lui accorder. Le monde est un envahisseur. Et donc, il faut fixer des limites. Donc, le monde étant un envahisseur, il a besoin de digues pour éviter qu'il ne submerge tout. Si vous le laissez faire, il vous prendra tout votre temps, toutes vos préoccupations, toute votre activité, toutes vos affections. Donc, il faut lui faire sa part à la lumière de Dieu, dans la paix de votre conscience. D'où l'intérêt ici des résolutions de retraite. Et puis ensuite, lorsque vous allez dans le monde alors, eh bien, armez-vous. Contre ces frivolités, armez-vous d'un esprit sérieux. Je n'ai pas dit coincé, hein. J'ai dit sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit sérieux? Un esprit sérieux, c'est un esprit qui est pénétré des grandes pensées de foi, qui chaque jour les médite, ne serait-ce que dans une simple petite lecture, quelques instants. Un esprit sérieux, c'est aussi un esprit qui est préoccupé de ses devoirs. C'est un esprit qui sait se passionner pour l'étude dans la mesure où il en est capable. En effet, l'un des meilleurs moyens de ne pas se laisser manger par le monde, c'est d'avoir toujours l'esprit occupé. Si vous êtes toujours occupé, eh bien, en ce moment-là, il n'y aura pas de prise au diable. Donc, contre les séductions du monde, armez votre cœur de tous les grands et saints amours. L'amour de Dieu, d'abord, l'amour de notre Seigneur, l'amour de la Sainte Vierge, l'amour des saints. Qui pourra séduire celui que Dieu lui-même a séduit le premier? Et quelle illusion ne s'évanouit-elle pas devant cette vision de la beauté infinie quand une âme l'entrevoit même à travers le voile? Ensuite, l'amour de la famille également. C'est un grand soutien. Regardez cette mère de famille qui, avant d'aller dans le monde, va embrasser son enfant endormi, s'agenouille un instant près de son berceau et s'en va le cœur muni de ce magnifique spectacle. Croyez-vous que cette femme va se laisser subjuguer par le monde? Eh bien non, tout simplement parce que son esprit est ailleurs, oui. Son cœur est ailleurs. Donc le monde n'a pas de prise sur elle. Et puis enfin alors, chers amis, contre les sophismes du monde, opposez des convictions et des résolutions inébranlables. Allez dans le monde avec des convictions, allez dans le monde avec des résolutions. Sans doute n'y apportez pas cette étroitesse d'esprit qui voit le mal partout, mais ne tombez pas dans la naïveté au point de le voir nulle part. Donc soyez catholique sans complexe et sachez résister au monde lorsque votre âme est en jeu et celle de vos enfants. Donc la conclusion de la conclusion. Puisse cet exposé vous aider à avoir des repères clairs pour déjouer certains pièges et comprendre quelle est votre vocation. Si vraiment vous en retenez les leçons avec un esprit sérieux, le cœur rempli de saintes affections, le caractère ferme, vous pouvez aller dans le monde. Vous y serez inébranlable. Non seulement le monde ne vous ferait pas de mal, mais vous y ferez du bien. Et sans être moraliste ni prêcheuse, vous y exercerez par votre seule présence un véritable apostolat. Et ça, c'est vrai aussi. Il y a un rayonnement, vous voyez, qui existe chez des femmes, et des femmes silencieuses. Par exemple, un exemple après tout bête, mais c'est une famille que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, donc qui a fait le pas de la tradition il y a quelques années. Alors je lui demande comment est-ce que ça s'est passé, vous voyez. Eh bien, c'est une famille qui, un jour, donc c'était des gens qui allaient à la messe et ils n'étaient pas satisfaits par les messes d'aujourd'hui, quoi. Et donc, du coup, comme ça arrive assez souvent, donc après la messe, ils pestaient contre le chant, contre le sermon, contre ces messes qui n'en sont plus. Bon, ils étaient vraiment très, vraiment. Et puis voilà qu'un beau jour, en allant à la messe, eh bien, ils rencontrent une jeune fille qui était bien vêtue, avec un missel dans la main, et qui rentre dans une chapelle. Cette jeune fille n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Eh bien, qu'ont fait ces gens? Ils ont été touchés par cette jeune fille qui, probablement, donc, ne sait toujours pas qui sont ces gens-là et ne se rend pas du tout compte du bien qu'elle leur a fait. Eh bien, en voyant cette jeune fille rentrer dans une chapelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés à côté, ils l'ont suivie et ils sont rentrés à la messe, première messe de Saint-Pie-V. Et depuis, ils n'ont pas changé. Non seulement ils n'ont pas changé, mais ils ont mis leurs enfants dans les écoles et ce sont de bons tradis. Eh bien, cette jeune fille, si elle avait été en jean, vous voyez, si elle n'avait pas eu une micelle, ben, ces gens-là ne l'auraient pas suivi. Je suis désolé, moi. C'est intéressant de voir combien, parfois, ça tient à de petites choses. Vous voyez. Un autre exemple que je vous donnerai, je pourrais vous en donner en série. Hein. Donc j'étais en ce moment-là, donc prieur de Lyon, donc, et le prieuré de Lyon. Et une dame est venue pour me demander de faire baptiser son enfant qui avait 9 ans. Alors elle m'a expliqué son histoire et donc elle avait sa fille qui avait 9 ans qui n'était pas baptisée. Donc elle a eu le désir de faire baptiser sa fille. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle va voir son curé tout simplement. Elle dit voilà, je voudrais faire baptiser ma fille. Et le curé lui dit ah non, 9 ans c'est pas un âge pour faire baptiser les enfants. Alors, bon. Quand ils sont plus petits, on peut le faire, et après aussi plus grands, mais alors il faudrait pendant 3 ou 4 ans, on la prépare et tout. Alors que fait cette dame? Eh bien, elle travaillait aussi dans le milieu médical, décidément. Et donc, elle en parle donc à une amie qui était infirmière. Non, elle n'était pas dans le milieu médical, mais elle avait une amie infirmière. Donc, elle parle à son amie qui est infirmière, et puis elle lui dit, voilà, donc... j'ai ma fille, je voudrais le faire baptiser, mais je suis quand même très surpris parce que le prêtre qu'elle a vu, elle lui a expliqué que 9 ans, c'est pas un âge pour faire baptiser les enfants. Alors cette fille dit en ce moment-là, donc l'ami, quoi, là, donc, moi, tu sais, la religion, c'est pas tellement mon truc, mais dans mon service, là, il y a une fille qui, elle est vraiment très catho, quoi, alors je vais lui demander. Et puis, en fait, cette fille très catho, c'est une ancienne de Pouilly, et donc celle qui sert d'intermédiaire lui dit, voilà, il paraît que 9 ans, c'est pas un âge pour faire baptiser les enfants. Tu crois que tu connais pas, toi, des curés qui... Ah, si, si, moi, j'en connais un, il n'y a pas de problème. On peut très bien faire baptiser un enfant, voilà. Et c'est comme ça que cette dame est venue à frapper, donc à sonner au prieuré. Alors, ce que je voulais vous dire par là, eh bien, c'est que cette jeune fille, vous voyez, si dans son service... elle avait caché ses convictions, elle n'aurait jamais dit qu'elle était catholique, eh bien, cette dame qui ensuite a fait baptiser sa fille, et ensuite, elle-même, je l'ai préparée à la première communion, parce que donc, comme je faisais dans ces cas-là en général, j'ai fait une instruction à la maman et à la fille en même temps. Et la maman posait des questions, bon, qui apparemment passaient au-dessus de la fille. Alors après, je dis, il faudrait peut-être faire 2 catéchismes, un pour la maman, un pour la fille. Donc, on s'est arrangé pour qu'il y ait 2 prêtres, donc un s'occupait de la maman et l'autre s'occupait de la fille en même temps. Donc on a préparé ensuite la maman à la première communion. Donc si cette jeune fille avait caché ses convictions, eh bien jamais cette dame n'aurait connu finalement donc vraiment l'Église. Elle n'aurait pas pu faire baptiser son enfant. Rien. Donc comme quoi le fait de sans faire du prêchi-prêcha, par le fait qu'elle a eu l'occasion de dire simplement qui elle était, ça a produit ses fruits. Donc puisse tout cela vous aider donc à être bien catholique sans complexe dans le monde. Et afin d'y faire le plus de bien possible pour que notre Seigneur puisse régner toujours davantage, non seulement en vous, mais dans la société.